franceinter.fr. Bonjour, une heure consacrée au plus célèbre des pianistes de musique classique, Glenn Gould. Glenn Gould, véritable légende, disparu il y a plus de 30 ans, mais dont on parle toujours autant. Musicien génial et atypique, très tôt retiré de la scène pour se consacrer à l'enregistrement de disques et d'œuvres, 81 comptabilisés sortis sur le label Columbia, qui disait de lui « Je suis un compositeur, un écrivain et un homme de communication canadien qui joue du piano à ses moments perdus ». Alors des moments perdus, ou plutôt on devrait dire des pépites qu'on écoute et réécoute pour entendre sa voix chantonner, ses doigts s'emparer du clavier, son humour interprété, sa joie éclatée dans une pièce, ses emportements se faire entendre dans une œuvre. Amateur du silence et philosophe de l'enregistrement, Glenn Gould s'est très tôt emparé de ce support pour nous en faire entendre le meilleur, comme en ce moment. Il est connu à travers le monde pour ses célébrissimes interprétations des variations Goldberg de Bach. On le connaît moins, un petit peu moins. Pour le reste, Beethoven, Strauss, Wagner, Brahms, Schoenberg. Cette heure lui sera donc consacrée avec l'écrivain, poète et éditeur Jean-Yves Clément, qui lui a consacré une très belle biographie, Glenn Gould ou le piano de l'esprit, sorti chez Actes Sud Classica. Bonjour Jean-Yves Clément.
Bonjour et merci.
C'est une joie de vous recevoir parce que vous nous présentez dans ce livre un Glenn Gould bien au-delà de son piano. On va pouvoir l'apprécier au cours de cette heure à travers votre connaissance très intime en fait de cet exubérant retiré du monde. C'est vrai, il y a quelque chose de très intime dans votre approche.
J'ai appris à l'aimer de plus en plus en écrivant sur lui. Je crois qu'on choisit ses sujets quand on fait un livre. J'ai choisi Glenn Gould et c'est vrai que je m'y suis attaché de plus en plus et c'est devenu un véritable objet d'affection. Et je trouve son attitude à l'égard de la vie comme de l'art d'une cohérence, d'une pureté incroyable. Et si aujourd'hui on manque d'exemples, en tout cas, et il y en a derrière nous, il en fait partie.
Alors parler de lui à travers sa musique, c'est ce que nous allons faire. On ne le connaît pas forcément comme quelqu'un qui interprète de manière lyrique, c'est peut-être pas l'adjectif qui lui colle le mieux à la peau.
Pourtant, ça devrait.
Oui, c'est ça. On va écouter justement le concerto numéro 4 en sol majeur de Beethoven. Là, vous le dites dans votre livre, c'est une interprétation spontanée, expressive. Oui. En plus, il est avec le grand Léonard Bernstein.
Dansante, comme vous le disiez juste avant l'émission.
Oui, c'est vrai,
finalement.
Dansante, tout à fait. Et il est avec l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction de Léonard Bernstein, qui veut bien se moquer de lui.
Qui adorait Gould comme les grands chefs de son temps, Karajan et d'autres, ils ont tous été fascinés par cette personnalité, par l'audace qui était la sienne et sa façon d'être sur scène et ailleurs, puisque rappelons qu'il a abandonné la carrière quand même à 32 ans seulement.
Très très jeune, on va l'écouter dans ce rondo du concerto numéro 4 en sol majeur de Beethoven, très rythmique et avec une attention toute particulière au phrasé je crois.
Oui, léger, vivante, souple et avec un toucher, un lyrisme comme vous disiez, sans pareil. Thank you.
un extrait du concerto numéro 4 en sol majeur de Ludwig van Beethoven avec Glenn Gould au piano et l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein, un enregistrement de 1961. Mmh. Jean-Yves Clément, pour aborder Glenn Gould sous un jour qu'on connaît moins de lui, d'abord concertiste, puisque, vous le disiez il y a quelques instants, il a finalement très tôt arrêté sa carrière de concertiste, d'homme en représentation devant un public.
Pour des raisons philosophiques très précises qui étaient les siennes depuis longtemps, c'est qu'il trouvait que le concert était le monde de la reine, sanguinaire même, il disait, que ses interprétations étaient polluées par le fait de la fréquentation du public et que la seule façon de respecter son art au plus profond, de la manière la plus intérieure, c'était de se réfugier à l'intérieur de l'espace de l'enregistrement et du studio qu'il a lui-même créé, comme on ferait avec son propre cloître, comme ça, pour s'isoler du monde. Il y a donc tout un parti pris chez Gould. Pour autant, il offre des interprétations de concerts qu'on a encore par le disque qui sont admirables et qui montrent à quelle hauteur il pouvait arriver, quelle que soit la position du public, si je puis dire.
Parce que le public le dérangeait dans quel sens? La reine, c'est-à-dire le jugement?
Dans tous les sens, dans le sens qu'il l'inspirait. Et que Gould pensait que la véritable inspiration devait venir de lui-même et non pas d'une source extérieure. En plus du reste de ce qu'on connaît bien aujourd'hui, de la pollution du public, de tout ce qui parasite. Gould est un puritain, un puriste. Donc pour lui, rien ne doit affecter la quête de la véritable interprétation. D'où la nécessité d'enregistrement qui permet le montage, même toutes les fantaisies possibles pour arriver à une œuvre qui serait un idéal en quelque sorte. C'est un parti pris, mais qui a ouvert des voies sur l'enregistrement extraordinaire qu'on a d'ailleurs, pour ainsi dire, pas suivi. Aujourd'hui, on se réfugie au contraire dans la société du spectacle et même dans les enregistrements live, qui est en soi une absurdité et quelque chose qui n'est pas gouldien du tout.
Alors bien sûr, l'enregistrement live, absurdité, ça dépend bien sûr du registre, en tout cas en musique classique, sans doute. Mmh. On va pouvoir en parler pendant cette heure, Jean-Yves Clément, parler aussi de ce Gould que l'on connaît tant par Bach, évidemment, et en particulier les variations Goldberg.
Oui.
C'est un prodige, il a commencé à 3 ans, sa mère lui a enseigné le piano jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Et puis après, il prend un enseignement auprès du pianiste chilien Alberto Guerrero.
Qui était un très grand pianiste pour l'époque, qui savait une foule de choses, et sur la musique, sur l'art en général, je crois que c'est lui qui a initié aussi Gould aux variations Goldberg.
Voilà, alors je voulais en parler avec vous, parce que justement, je crois que ça l'initie aux variations Goldberg, il l'initie aux variations Goldberg et à Bach. C'est
oui, bien sûr, Bach qui devient son dieu, sa bible musicale, et pas seulement musicale si je puis dire, qui correspond à toute son attitude rigoriste et morale par rapport à la vie. Bien sûr, Bach devient tout, mais pas seulement Bach, il y a d'autres piliers dans...
C'est pour ça qu'on va faire un tout petit chapitre sur Bach.
Il y a Strauss, il y a Schoenberg, il y en a 3 qui atteignent à peu près à la même dimension.
Mais Bach, évidemment, on en parlait un petit peu pour démarrer, resituer le personnage. Vous voulez nous faire entendre une toccata de Bach, un enregistrement tardif puisqu'on est en 1980.
Oui.
Pourquoi cette toccata-là? Pourquoi ce moment-là?
Toccata, ça veut dire improvisation, une liberté, une fantaisie dans ses œuvres qui correspond tout à fait à la manière d'être de Gould. Il s'agissait pour lui de recréer la musique et pas de donner des interprétations routinières, sinon ça ne servait à rien. Donc il se place en attitude de véritable recompositeur des choses. Et je trouve qu'il n'est jamais mieux que dans cette posture-là. Et évidemment, ça correspond idéalement aux toccata qui correspondent aussi à cette musique pour Bach. Une musique de liberté totale et de fantaisie dans le meilleur sens du terme.
Voici la toccata en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Glenn Gould. La toccata en sol, enregistrée en 1980, c'est interprété par Glenn Gould et bien sûr de Jean-Sébastien Bach. Et on entend à quel point ce qu'il met dans son interprétation, Glenn Gould, on sent, comment dire, quand on l'entend, on le sent jouer. On l'entend jouer,
oui, il y a deux choses
on le voit jouer.
Qui me frappe, moi, c'est la façon dont il chante de façon quasi extatique et perdue, et tout sauf froidement, comme on l'a dit des fois de façon si absurde, c'est exactement le contraire. Et puis il y a cette espèce d'espace méditatif qu'il ouvre de façon radicale. La musique est pour Gould un objet de béatitude, et encore une fois, une quête, c'est pas une expérience comme ça, éphémère, qui procure juste un simple divertissement de type hédoniste. C'est pas du tout ça. Il s'agit plutôt d'une attitude quasi religieuse. Il faut employer les mots qui conviennent, même si les mots sont douteux.
Et effectivement, on l'entend bien dans ces silences qui s'y mettent entre les notes, dans cette interprétation de cette toccata en sol.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Jean-Yves Clément, on a très vite dit de Glenn Gould qu'en l'écoutant, on avait l'impression d'entendre un élève de Bach interprétant l'œuvre directement de son maître, comme si Bach était à côté de Glenn Gould, comme si finalement presque Glenn Gould était un peu Bach. Il y avait quelque chose de cet ordre-là très vite dans les critiques. Et ça me permet d'aborder avec vous cette histoire de la mentalisation de la musique. C'est quelqu'un qui a abordé l'œuvre de tous les compositeurs, mais donc aussi de Bach, en la pensant. D'abord.
Oui, en la mémorisant, il avait des facultés inouïes qu'on peut peut-être rapprocher de celles d'un Franz Liszt. D'ailleurs, Gould, il photographiait, si je puis dire, immédiatement une partition qu'il pouvait retranscrire avec ses doigts et sans avoir besoin, finalement, même d'adapter les choses. Tout redescendait très naturellement de son esprit à ses doigts dans son corps, dont pourtant avec lequel pourtant il avait peu d'égards, puisque Gould reste un cérébral pur. C'est certain, mais ça n'empêche pas une incarnation dans la musique qui est réelle. C'est là où il y a un paradoxe chez lui. Mais en dehors de ça, dans la vie, il a plutôt des problèmes. Il en est plutôt, on dirait, résolument coupé. Mais pas dans son art et pas dans sa musique qui est si charnelle, finalement. Mais effectivement, c'est quelqu'un de directement, on dirait, intellectuel aujourd'hui. Avant toute chose, il a une attitude de musicien compositeur.
Pratiquer la musique en la pensant, oui, simplement, oui. C'est possible ça, Jean-Yves Clément ?
À ce niveau-là, ça a l'air possible et surnaturel, mais ça l'est. D'ailleurs, Gould était quelqu'un qui retranscrivait presque d'oreille les choses. Bruno Mont-Saint-Jean, qui nous a tous
révélé Bach
et auquel je veux et je dois rendre hommage ici, raconterait très bien comment Glenn Gould pouvait, comme ça, d'oreille, lui retranscrire des passages d'Electra, de Strauss, n'importe quel opéra de Mozart, même de Verdi qu'il n'aimait pas, n'importe quoi, juste d'oreille. Il avait en lui toute la musique possible, comme un grand créateur, là. Mais là, on parle de gens qui s'appellent souvent compositeurs, ou Picasso, ou Mallarmé, pas des gens ordinaires. Je pense que Gould n'est pas un interprète ordinaire, il est beaucoup plus qu'un interprète.
Oui, en tout cas, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important de comprendre qu'on puisse répéter mentalement quelque chose et puis après l'interpréter avec ses doigts.
Parce que l'esprit est capable de tout et c'est la matière qui lui obéit et pas l'inverse quand même.
On va voir comment la matière obéit aux doigts de Glenn Gould dans ce clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach dans ce prélude en fa magnifique. Extrait du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, le prélude en fa, interprété par Glenn Gould. On entend tout quand il joue, on entend toutes les voix, toutes les intentions, les voix qui sont liées, les voix qui sont déliées. C'était un peu sa spécialité, oui. Cette façon de jouer.
La clarté est extrême parce qu'encore une fois, l'esprit domine totalement son sujet. Donc la partition, il pourrait aussi bien la réécrire une fois qu'il l'a lu une fois. La jouer, c'est encore autre chose. Mais ce souci de clarté est quand même la première des nécessités. Surtout chez quelqu'un qui avait le contrepoint en obsession première. Vous savez, son idée, c'est que la musique est avant tout une histoire de voix, donc d'horizontalité.
C'est ce que je vous disais, on entend bien les voix.
Et pas de verticalité. Il condamnait la musique trop simplette pour lui, qui se contentait, comme dans l'opéra italien, d'une mélodie et d'un accompagnement. Ce qu'il aimait, c'était la profusion polyphonique de Jean-Sébastien Bach ou des autres, Richard Strauss qu'on citait, Schoenberg, etc.
Alors justement, parmi ces autres qu'il aimait, ça fait presque un grand écart comme ça en apparence, c'est Schoenberg. Et pourtant Schoenberg, lui, s'est beaucoup inspiré de Jean-Sébastien Bach.
Il s'est inspiré de beaucoup de gens, et puis c'est surtout comme Bach un nouveau dieu de la musique. Après Liszt, après Wagner, il nous a fallu quand même Schoenberg, qui d'abord a été le post-romantique que l'on ne sait pas parfois, et puis ce nouveau dieu avec des lois sur lesquelles il a pu revenir, mais néanmoins, Schoenberg est est un monstre, il faut le dire, parce que des fois, on a l'impression que c'est pas grand-chose, c'est une musique un peu bizarre, alors que c'est un grand génie. On va l'entendre, là, j'imagine.
On va l'entendre, et je crois que Glenn Gould disait de lui qu'on pouvait absolument tout jouer. Avec, parce que parfois, on disait c'est un peu difficile à jouer, et lui disait non.
Pour lui, c'était comme un jeu, une vraie récréation. On dirait un enfant qui s'amuse avec des billes quand il joue Schoenberg.
La gavotte de la suite opus 25 d'Arnold Schoenberg, un enregistrement du 25 août 1959, donc l'enregistrement live. Et effectivement, Jean-Yves Clément...
J'avais 26 ans.
Oui, et on entend dans sa façon de jouer, on entend les billes, on entend que Schoenberg peut le séduire pour l'aspect structurel. On sait que Schoenberg est à l'origine de décaphonisme et donc de cette structure qui est propre à celle de Bach. Mais c'est beaucoup plus étonnant de se dire que Glenn Gould était fasciné par Strauss.
En tout cas, chez Schoenberg, il y a aussi le jeu, il y a l'aspect ludique, et puis il y a cette espèce de mathématique de l'esprit quand même qui confère à cette musique une dimension, je trouve, spirituelle, dans les deux sens du terme. Et le mot spiritualité, chez Gould, c'est pas rien.
C'est toujours dans les deux sens. Hein.
C'est pas rien. Oui, il faudrait mieux que ce soit toujours dans les deux sens, plutôt. Strauss, c'est autre chose. C'est une opulence, c'est une exubérance, c'est une musique de la grande santé, dirait Nietzsche. C'est une jouissance, pour le coup, quasi hédoniste, qui prend un peu Gould en défaut, mais ça, c'est pas difficile de le trouver en défaut de contradiction, si je puis dire. Et c'est un amour polyphonique aussi. Strauss, il a su tout faire. La musique de chambre, l'opéra, la musique instrumentale. Il écrit encore de la musique post-romantique en 1948. Il défie toutes les lois du genre, toutes les notions de progrès dans l'histoire de l'art. C'est vraiment notre grand monstre du XXe siècle, bien méconnu. Et Gould a eu bien raison de l'aimer à ce point et d'écrire autant sur lui. Parce que ce qu'on n'a pas dit déjà dans cette émission, c'est à quel point Glenn Gould était aussi un grand écrivain de la musique. Non pas un musicologue, Dieu merci, mais un véritable penseur de la musique.
Qui écrivait donc sur sa façon de voir la musique à lui.
Et sur ses pochettes. Il est le premier à avoir écrit ses propres pochettes de disques et personne ne l'a suivi vraiment.
Alors on parlait de Strauss. On va écouter Strauss dans son jeune âge, alors qu'il n'a que 17 ans, dans une interprétation de cette sonate en si mineur, opus 5 de Strauss. Dernier enregistrement de Glenn Gould.
Oui.
Dernier, tout dernier.
Oui, et j'aime qu'il soit mort sur une musique d'adolescente aussi vitale que celle-ci. Thank you.
Un extrait de cette sonate en si mineur, opus 5 de Richard Strauss, écrite à l'âge de 17 ans, interprétée par Glenn Gould au piano. Dernier enregistrement de Glenn Gould, qui d'ailleurs s'est toujours enregistré sur un magnétophone, je crois, Jean-Yves Clément, depuis le plus jeune âge.
Il a toujours été obsédé par l'enregistrement, bien sûr. Avant d'en faire sa véritable
philosophie,
quête, il était déjà obsédé par le fait de s'écouter, de se réécouter, de s'améliorer. Il a bidouillé toutes sortes de choses depuis ses 13 ans. 14 ans, en ce sens, oui. Ce qui est extraordinaire, là, c'est une espèce de jeunesse éternelle, quoi. C'est un génie de 16 ans, joué par un autre génie qui va bientôt mourir qu'à 50 ans. Et on entend une espèce de vitalité, d'hymne. Mais l'hymne, c'est un peu la vie et l'art de Glenn Gould, vous savez, cette forme un peu puritaine de chant, fait à quatre voix, très pur, très simple, mais qui porte comme ça toute une foi, en fait.
Un homme d'ombre et de lumière, puisqu'il paraissait très triste et à la fois était capable de nous mettre la plus grande vie possible dans sa musique.
Et l'humour.
Ça arrive.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
L'humour, en effet, Jean-Yves Clément, c'était en fait un véritable bout en train. C'est vrai que ouais, ça n'avait pas l'air comme ça, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui avait envie de célébrer la vie, malgré ce qu'on pouvait en croire.
Dans ses écrits, dans ses façons aussi de pasticher des Karajan ou autres Stockhausen, dans des émissions de télé canadienne, quand même, où il se grimait entièrement. Il y a un côté Monty Python chez Glenn Gould, avec un humour comme ça, plus anglais qu'américain. Rappelons qu'il était canadien. Quand on est canadien, on est plus anglais qu'américain. Surtout dans les années 50, et il transmet cet humour dans ses façons de jouer aussi des fois, et même dans ses propres œuvres comme celle qu'on a choisie, donc The You Want to Write a Fugue.
Alors racontez, parce que c'est quand même marrant le principe, c'est en fait, expliquer la fugue.
Obsédé par la fugue et la polyphonie, il a inventé comme c'est une pochade à quatre voix, bien sûr, la formation originelle du chœur, où à la fois il dit tout son éloge, son amour de la fugue, en même temps qu'elle s'autodétruit au fur et à mesure de la pièce, avec des textes truculents, c'est là l'aspect Monty Python, une musique qui l'est pas moins, mais quand même génialement écrite jusqu'à la dissolution totale de la pièce, donc il réussit quelque chose d'assez rarissime en fait dans l'histoire de la
composé, musique. Interprété à l'occasion d'une émission télévisée pour
exactement,
expliquer
on
la
voit
fugue.
Ça sur YouTube. Hein.
Oui, on voit exactement et c'est aussi assez savoureux d'entendre que ça chante pas exactement juste, mais ce qui compte c'est
les choses
d'expliquer
qui arrivent,
la
vous
fugue.
Savez, dans les meilleures maisons.
So you want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead,
so you
go ahead,
want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead, so go ahead, and write a fugue.
Right, 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 right one is to plunge right in and right one. Just ignore the rules and
plan.
And the fun of it will get you, and the joy of it will fetch you. It's a pleasure that is bound to satisfy. To satisfy the mind of
you. The only way to right one is to
plunge right
one. Have a try, have a try.
The fun of it will get you joy.
Never be clever for the sake of being clever. For a canon in an version is a dangerous diversion. And a bit of augmentation is a serious temptation.
Extrait de cette composition de Glenn Gould, So You Want to Write a Fugue, un morceau musical humoristique qui nous permet de parler d'une des facettes moins connues de ce grand interprète, compositeur donc également, écrivain, et avec une autre particularité, Jean-Yves Clément, que vous soulignez très joliment, c'est quelqu'un qui, en fait, est aussi tout le temps à la recherche de l'extase. L'extase rationnelle, mais l'extase quand même.
L'extase qu'on peut acquérir pour lui simplement par l'exercice de la solitude. Il croit à la relation à l'autre par solitude interposée en quelque sorte, d'où l'enregistrement contre le concert. Oui, l'extase, bien sûr, dans un sens quasi mystique, et la musique peut procurer cette extase. Mais
pourquoi la nécessité de solitude pour atteindre cette extase, Jean-Yves Clément ?
Bah, c'est difficile de sortir de soi en public, si j'ose dire. Il faut quand même un minimum. Et alors, ce qui est magnifique, c'est quand il dit, Gould, que la solitude nous octroie justement le don de la réconciliation. Il est là, le paradoxe. C'est pas simplement en se frottant à l'autre qu'on va dire qu'on l'aime ou qu'on prouve qu'on l'aime. C'est pas dans cette espèce comme ça de contamination, justement, qui condamnait à travers le concert. Mais c'est plutôt dans un respect et une communication de l'autre, mais encore une fois, de solitude à solitude. Mais ça n'empêche pas la profondeur des sentiments. Au contraire, je vois même pas forcément le rapport. C'est au contraire la dénonciation d'un mensonge chez Gould. C'est plutôt, comme dirait Zarathoustra, enfin Nietzsche, plutôt dans Zarathoustra.
Qui fascinait d'ailleurs l'amour Gould, hein.
L'amour du plus lointain. C'est pas contre l'amour du prochain, mais c'est pas n'importe quel prochain à tout prix et n'importe comment. C'est pas ça l'amour.
Selon Glenn Gould, encore une fois, on essaye de comprendre qui est ce personnage tout à fait passionnant, qui avait aussi beaucoup de phobies, parce que son isolement, c'est bien sûr, c'est philosophique, mais c'est aussi
une protection. Vous avez raison, sans doute un étouffement dû à sa mère, etc. Beaucoup de choses, mais on est tous aussi le produit de nos névroses.
Alors, c'est aussi intéressant de l'entendre, puisque on le connaît comme quelqu'un de rigoriste, beaucoup parce qu'on le connaît aussi par Bach. Grâce à vous, on le découvre sous d'autres interprétations et d'autres, surtout, compositeurs. Brahms, on ne s'attendrait pas à ce qu'il adore Brahms.
C'est son grand amour.
Et il dit que ces 10 intermédiaires qu'il a enregistrés étaient peut-être son enregistrement le plus sexy.
Oui, c'est de la provocation, c'est de l'humour aussi, mais c'est vrai, c'est son enregistrement sans doute le plus résolument romantique, déchirant, lyrique, à la fois le plus tendre. C'est vraiment une merveille que cette façon de voir Brahms d'oser déchirer cette musique si crépusculaire et si intime et intérieure, et d'en faire un acte pour le coup véritablement d'amour pour les autres.
Brahms, compositeur fétiche aussi de Glenn Gould alors ?
Oui, absolument. Il aimait beaucoup son premier concerto pour piano qu'il a joué avec Bernstein, un enregistrement célèbre, et puis beaucoup d'autres pièces dont ses intermezzi.
Donc on va écouter l'intermezzo numéro 2, opus 117, extrêmement sexy, donc ouvrez bien vos oreilles.
Thank you.
L'intermezzo en si bémol mineur numéro 2 de Johannes Brahms, interprété au piano par Glenn Gould. Alors évidemment, c'est surtout l'engagement qui sort très distinctement de cette interprétation, Jean-Yves Clément.
Les berceuses de la douleur, comme les appelait Brahms, et là on y est vraiment. C'est peut-être pas très sexy, mais c'est très érotisant finalement, dans sa façon de s'engager, comme vous le dites, dans le piano.
Mais ce qui frappe en fait, en lisant votre livre... Jean-Yves Clément, et en écoutant Glenn Gould à l'aune de cette lecture, c'est à quel point chaque moment enregistré, chaque disque nous fait entendre à quel point il donne Glenn Gould. Tout est au service de la musique.
Absolument, c'est un don, mais c'est ça, transmettre, c'est aimer, et puis ça se passe dans les actes, c'est un exemple, et en ça, pour moi, c'est très listien comme attitude, Liszt étant un peu mon grand homme et mon héros dans la vie et dans la musique, et je trouve que Gould a été un grand serviteur, donc c'est la moindre des choses de l'être à son tour.
Et un musicien qui se donne à découvrir à travers la musique qu'il choisit d'interpréter, la musique qu'il choisit de donner sous une certaine forme. On sent bien que vous avez appréhendé cet homme à travers sa musique. C'est donc possible de découvrir quelqu'un à travers des interprétations, Jean-Yves Clément.
Oui, il faut décoder, il faut avoir les oreilles pour ça. Il faut essayer surtout que les mots vous viennent et pas les sons ni une attitude musicologique, plutôt une attitude poétique pour dire ce qu'est la musique avant tout, à faire aussi de poésie. Et Gould est un poète à la profonde subjectivité. Donc il faut essayer de retrouver cette subjectivité, mais que sa musique, son art me parle, comme presque aucun autre d'ailleurs, oui. Mais pour ça, il faut aussi le fréquenter assidûment. C'est comme une personne, ça se fait pas tout de suite forcément, mais on creuse et on aspire à aller encore plus loin. Et puis ça vient, puis il se révèle à vous. Et plus je l'ai traité, pour parler comme ça, plus je l'aimais en fait.
Est-ce que on peut dire que Glenn Gould se sentait incompris, Jean-Yves Clément? Est-ce qu'il a souffert d'une forme d'incompréhension de son public?
Non.
Non,
pas ça, vraiment. Pas du tout. Il a été une immense vedette quand il a arrêté, on lui a offert bêtement d'ailleurs des millions de dollars en espérant qu'il suffisait de ça pour le remettre sur scène. Après, ses disques ont remporté très vite un engouement. Non, puis il n'était pas dans cette posture-là parce que la reconnaissance, c'était pas son affaire. Sinon, il serait resté un homme de concert, il serait devenu Lang-Lang.
D'où l'histoire de la reine, au fond. Horreur. Il n'avait pas envie de se retrouver dans ce danger que peut représenter la scène.
Exactement.
Aussi.
C'est un danger moral pour lui, une histoire d'impureté. Donc il fallait absolument couper avec cette posture. Et il l'a fait au fait de sa gloire, alors qu'il était adulé par l'Amérique entière. Il faut le rappeler quand même. Qui a fait ça, à part Liszt en son temps, à 35 ans, encore lui.
Bon, on vous invitera pour parler de Liszt, tiens, la prochaine fois, Jean-Yves Clément.
Ça, c'est sympa, je veux bien.
Glenn Gould, ou le piano de l'esprit, c'est un passionnant ouvrage sorti chez Actes Sud Classica, dans lequel vous nous racontez votre point de vue de Glenn Gould, qui paraît très proche de la réalité. Ça, c'est pour l'écrit. Et puis, pour la musique, il suffit d'aller consulter le magnifique coffret sorti chez Sony Classical. Tout les disques de Glenn Gould remasterisés qu'on a pu savourer là en votre présence, Jean-Yves.
Il y a les écrits de Glenn Gould grâce à leur retranscription par Bruno Mont-Saint-Jean.
Et effectivement, et puis le magnifique documentaire de Bruno Mont-Saint-Jean.
Les quatre films essentiels qui nous ont révélé Gould.
Sur Glenn Gould, toujours passionnant à regarder.
Merci.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Jean-Yves Clément, Glenn Gould n'aimait pas que la musique classique, il avait sans doute raison.
Il aimait aussi Petula Clark et des choses un peu étranges. Il aimait beaucoup Bill Evans, qui appelait le Scriabine du jazz.
Tout à fait. Et puis la musique qui s'improvise, je crois que ça lui plaisait bien.
Oui.
Alors voici deux interprètes pour signaler cet événement qui va arriver dans deux jours. Un cycliste libanais commencera un périple à vélo entre Paris et Beyrouth pour inspirer ses deux fils et également la jeunesse libanaise et celle du monde à croire que tant qu'il y a de l'espoir et un peu de volonté, tout est possible. Alors il fait ce périple pour soulever des fonds pour l'association libanaise sous l'égide de la pédiatre Noah Baz des Petits Soleils, qui offre des soins gratuits aux enfants dans le besoin, ainsi qu'aux nombreux, très nombreux enfants réfugiés syriens. Alors le départ, c'est le 26 mai à 10h sur l'Arc de Triomphe. triomphe. L'arrivée est prévue le 2 juillet à Beyrouth, après 4000 km à vélo. L'opération s'appelle Cyclist of Life. Vous pourrez suivre les pérégrinations du cycliste sur sa page Facebook. Je crois que Glenn Gould, en plus, aimait pédaler.
Avait une page Facebook, non?
Non, il aimait pédaler. Alors, pour soutenir cette opération, vous allez sur la page Facebook Cyclist of Life. Cette opération vient en aide aux réfugiés du Liban, avec ce duo de oudistes d'origine syrienne, Khaled Al-Jalamani, qui joue ici avec le guitariste Serge Tessoguet, un extrait de leur excellent album Interzone. C'est la rencontre de deux cultures dans une cartographie imaginaire, en écho des racinements de ce oudiste syrien qui est Khaled Al-Jalamani. On the road, sur la route, pour clore cette émission et célébrer cette association qui vient en aide aux réfugiés syriens. De ce duo Interzone, Serge Tessoguet à la guitare et Khaled Al-Jalamani au oud, pour clôturer cette émission. Merci beaucoup à vous, Jean-Yves Clément.
Merci à vous, c'était très agréable, vraiment.
Et bravo pour votre livre Glenn Gould ou Le Piano Merci. De l'Esprit, sorti chez Actes Sud Classica. Revenez nous parler de liste quand vous voudrez.
Attention, je vais le faire.
Merci beaucoup à Marie-Annick Rimbaud qui a réalisé cette émission, assistée de Camille Poux, Jalaguier, Claire Destacan, Elsa Rampazzo et Alexandra Ramos da Silva. Demain, nous recevrons Raphaël Pichon. Merci à Antoine Gomez à la technique. Raphaël Pichon pour parler du festival de Saint-Denis qui commence dans le registre classique tout très bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur le site de franceinter.fr et n'hésitez pas à nous y laisser des messages.